Un autre faux pas du régime sioniste est Haïfa et Tel Aviv seront rasés. Le commandant des forces terrestres de l'armée iranienne a prévenu que Téhéran raserait Tel Aviv et Haïfa si le régime d'occupation faisait le moindre faux pas. Sur l'ordre direct du chef de la révolution islamique, nous raserons Tel Aviv et Haïfa en cas de la moindre erreur commise par l'ennemi, a déclaré mardi le général de brigade Qumar Zoïdari. Le général Haïdari a également prévenu que les territoires occupés par Israël seront libérés d'ici 25 ans, ajoutant aujourd'hui. Les réalisations militaires et de défense de l'armée de la République islamique d'Iran sont une épine dans les yeux des ennemis, affirmant que l'éventail des drones et missiles opérationnels de l'armée a considérablement augmenté, faisant référence à la base stratégique de drones 313. Haïdari a déclaré que tout cet équipement vise à répondre à toute attaque insensée des ennemis du pays, soulignant que les armes légères des forces terrestres iraniennes sont également modifiées, mises à jour et mises en dépôt. Les politiciens et les responsables militaires iraniens ont à plusieurs reprises mis en garde Israël contre tout aventurisme, contre la République islamique, mettant en garde contre une réponse écrasante à tout acte d'agression. Et ils ont promis une sévère vengeance pour le meurtre d'un membre du Ségéri. Dimanche, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, Ségéri, a également averti que l'Iran se vengerait sévèrement de ceux qui ont assassiné un officier des forces armées iraniennes à Téhéran. Ce dernier avertissement de Téhéran intervient alors qu'un membre du corps des gardiens de la révolution islamique, Ségéri iranien, a été assassiné le mois dernier lors d'une fusillade impliquant le régiment israélien. Le colonel Hassan Sayed Khodaï a été assassiné par deux motards qui lui ont tiré dessus à 5 reprises avant de fuir les lieux de l'assassinat le 22 mai. Le colonel iranien sortait de sa voiture pour rentrer chez lui dans un quartier de l'est de la capitale iranienne lorsque 3 balles l'ont atteint à la tête et 2 balles à la main. Citant un responsable du Mossad, le New York Times du 25 mai a affirmé qu'Israël avait tenu les responsables américains informés qu'il était derrière l'assassinat. Lundi, le journal israélien Haaretz a déclaré dans un éditorial que les assassinats de personnalités iraniennes qui ont été attribués à Israël sont inutiles, les comparant à une brute de quartier. Le pouvoir Atlantis à Kiev dote l'armée ukrainienne d'un bataillon licorne. Un bataillon LGBT en Ukraine, il ne manquerait plus que ça. Selon Reuters, un nouveau bataillon LGBT a rejoint les rangs des forces armées ukrainiennes. On reconnaîtra les membres du bataillon à l'insigne très spécial qu'ils ont adopté, une licorne. L'écusson sera cousu sur les manches de l'uniforme habituel des forces armées ukrainiennes, juste en dessus du drapeau bleu et jaune. À l'origine de l'initiative, Alexander Jugan et Antonina Romanova, des représentants de la communauté LGBT, expliquent qu'un tel emblème au symbolisme sans ambiguïté est nécessaire car beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas d'homosexuels dans l'armée. Dans la même veine, l'ancien parachutiste des forces armées ukrainiennes, Ivan Kozenko, a déclaré que des volontaires européens leur avaient apporté des livres faisant la promotion de relations sexuelles non traditionnelles. Selon lui, ils entendaient ainsi convaincre les militaires que les homosexuels dans l'armée sont la norme. Pour l'expert militaire Konovalov, l'apparition de détachements LGBT témoigne des lourdes pertes dans les rangs des forces armées ukrainiennes. Il explique sans rire que les troupes ukrainiennes subissent de lourdes pertes. Il n'y a personne pour boucher les trous dans la défense, alors ils ont décidé de faire appel à des licornes. Mais il y a encore plus, car dans le même temps, les données piratées par RAHDIT de quelques 700 employés de la SBU faisaient surface sur la toile. Données qui faisaient état d'un penchant certain des forces de sécurité ukrainiennes aimant pour l'échangisme et les pratiques LGBT. Vladimir Poutine avait déclaré se battre contre l'Occident décadent qui renonce à ses racines et dont l'OTAN est le bras armée. Or, voici l'insigne d'épaule du Chief Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Phonétiquement Chief, l'ancêtre de l'OTAN durant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve le même arc-en-ciel que pour le drapeau LGBT. D'autre part, le symbolisme de l'épée nue semble le même que celui de la corne de l'animal mythique. Et voici le communiqué du 17 mai 2017 de l'OTAN à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie. On peut considérer que c'était déjà une déclaration de guerre à la Russie. Pourquoi sinon une organisation militaire se donnerait la peine d'une déclaration sur un tel sujet. Mercredi 17 mai 2017, pour montrer que l'OTAN s'associait à la Journée internationale contre l'homophobie, le secrétaire général Jens Stoltenberg ou Stoltenberg, on peut prononcer ça de deux façons, a posté un tweet indiquant que partout dans le monde, les LGBT ont droit à une vie digne, préservée de l'exclusion et de la peur. La diversité rend nos sociétés ouvertes plus fortes et plus sûres. Bien sûr, madame, l'OTAN a été pionnière à l'échelle mondiale en ce qui concerne la reconnaissance du mariage contre personnes de même sexe. Elle a accordé les mêmes prestations à tous les agents mariés dès juillet 2002, à une époque où le mariage entre personnes de même sexe n'était reconnu que par un seul pays, dans le monde, les Pays-Bas, bien sûr. L'organisation est attachée à la diversité. Toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, la nationalité, le handicap ou l'âge est strictement interdite au sein de l'OTAN. J'adore cette diversion. La Chine a fustigé le 7 juin la désinformation du Canada et de l'Australie qui ont tour à tour accusé Pékin d'avoir mis en danger leurs avions militaires dans un contexte de tension avec ses alliés de Washington. Après la mise en cause du comportement de ses pilotes dans plusieurs épisodes de tensions aériennes, Pékin a réfuté la version des faits donnés par Ottawa et Canberra, les accusant de diffuser de fausses informations. Le Canada a reproché la semaine dernière à l'armée de l'air chinoise une conduite dangereuse après un incident dans l'espace aérien international en Asie. Selon Ottawa, des appareils canadiens déployés au Japon dans le cadre des efforts multinationaux pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord se seraient retrouvés face à des avions militaires chinois qui auraient cherché à les faire changer de trajectoire, ce qui a conduit le Premier ministre canadien Justin Trudeau à dénoncer le 6 juin une provocation de la part de la Chine. C'est la reconnaissance rapprochée d'avions militaires canadiens contre la Chine qui est irresponsable et est une provocation, a rétorqué devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian, affirmant que le Canada devait respecter objectivement les faits et cesser de répandre de la désinformation. En froid avec Pékin, l'Australie a elle aussi accusé le 5 juin la Chine d'avoir mis en danger l'un de ses aéronefs au-dessus de la mer de Chine méridionale. Selon Canberra, un chasseur chinois aurait intercepté de façon téméraire un appareil de surveillance australien fin mai, s'approchant de près et lançant des fusées éclairantes avant de passer brusquement devant lui, fausses informations, un récit réfuté par la Chine le 7 juin. Selon sa version des faits, l'avion militaire australien s'est approché pour une reconnaissance en ignorant les avertissements répétés de la partie chinoise, a affirmé dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Défense Tang Kefei. Cette action a sérieusement menacé la souveraineté et la sécurité de la Chine, a affirmé le porte-parole, accusant l'Australie de diffuser de fausses informations. Au nom de raisons historiques, Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine, mais l'Australie comme les États-Unis considèrent que la majeure partie de la mer de Chine méridionale fait partie des eaux internationales et que la navigation et le survol auraient vocation à être libres, même pour des avions militaires. Les relations sino-australiennes se sont dégradées depuis plusieurs années, Pékin s'inquiétant du renforcement de l'alliance entre l'Australie et les États-Unis qui vise à endiguer son influence dans la région Asie-Pacifique. la Russie allonge la liste d'Américains interdits d'entrée sur son territoire. Une nouvelle série de responsables politiques et économiques états-uniens est venue compléter la liste des personnalités interdites de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen. La diplomatie russe a étendu le 6 juin sa liste de citoyens américains interdits d'entrée en Russie, y incluant notamment la secrétaire au Trésor Janet Yellen, en représailles à des sanctions similaires prises par Washington en lien avec l'offensive en Ukraine. La nouvelle liste comprend 61 noms, essentiellement ceux de responsables gouvernementaux et politiques, mais aussi de plusieurs patrons de grandes entreprises, essentiellement dans le secteur de la défense et de l'énergie. 61 citoyens américains parmi les dirigeants de grandes entreprises du complexe militaro-industriel, de plateformes médiatiques et d'agences de notation, d'entreprises de construction aéronautique et navale sont inclus, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Outre Janet Yellen, la ministre de l'Énergie, Jennifer Granholm, ou encore le PDG de l'opérateur de satellite OneWeb, Neil Masterson, ont été sanctionnés. Les PDG d'Universal Pictures et de l'agence de notation Fitch sont aussi ajoutés sur la liste. Le 21 mai, Moscou avait rendu publique une liste de 963 personnalités interdites de séjour sur le sol russe, incluant notamment le président américain Joe Biden, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et l'acteur Morgan Freeman. Certes, la Russie gagnera la guerre en Ukraine, prendra le sud et l'est pour probablement créer un nouveau pays et laissera le reste du cadavre à la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Lituanie et d'autres pour qu'ils s'en régalent. Mais ensuite, l'OTAN contrôlé par les États-Unis sera toujours là. Il est pratiquement garanti que les États-Unis l'utiliseront pour se venger de la perte de l'Ukraine. Cela se fera par un renforcement constant des troupes et des capacités de missiles à longue portée le long des frontières nordiques et baltiques de la Russie et par des menaces navales supplémentaires dans le nord de l'Arctique ainsi que dans le sud de la mer Noire. Dans une dizaine d'années, les États-Unis pourront à nouveau tenter de mener une grande guerre par procuration contre la Russie avec une chance décente de gagner. Aucune négociation ni aucun accord de paix ne l'empêchera. Les États-Unis sont réputés pour leur incapacité à conclure des accords. Ils ont rompu toutes les promesses et tous les accords qu'ils ont conclus avec la Russie. Des dizaines de sommités américaines et européennes avaient promis à la Russie que le temps ne s'étendrait pas d'un pouce vers la Russie. Regardez où se trouvent maintenant ses frontières. Les États-Unis et l'UE ont confisqué d'énormes quantités d'argent appartenant à l'État russe. Ils ont même pris, en contradiction avec leur propre constitution, les propriétés de citoyens russes privés, simplement parce que ces personnes se trouvent être russes. En 2014, l'Allemagne et la Russie se sont engagés à garantir les élections pour un changement de régime pacifique à Kiev. Un jour plus tard, les fascistes ont pris d'assaut le Parlement ukrainien et ces garanties se sont avérées totalement sans valeur. Les États-Unis ont tout simplement dit « on emmerde l'UE ». Ils n'en ont rien à faire des intérêts européens. L'Allemagne et la France ont ensuite négocié et signé les accords de Minsk 1 et Minsk 2. Elles ont continué à injecter des milliards de dollars européens en Ukraine alors même que le gouvernement ukrainien, contrôlé par les États-Unis, ne faisait rien pour les respecter. Mais ils ont été aussi stupides que cela. Les États-Unis ont installé des systèmes de défense antimissiles en Pologne et en Roumanie qui sont en fait conçus pour lancer des missiles balistiques à portée intermédiaire sur Moscou. Ils représentent un grave danger pour la Russie. Même après la fin de l'Ukraine, l'OTAN et ses mandataires de l'UE continueront à représenter un danger pour la Russie. Tous deux ont prouvé qu'ils étaient incapables de tenir leurs promesses. Par conséquent, la Russie devra les réarranger. Elle pourrait le faire par la force, mais il n'y aura pas de marche vers Riga, Varsovie, Berlin ou Paris. Rappelez-vous que la Russie est passée par là, ce qui a entraîné à chaque fois des changements majeurs en Europe. Europe. La Russie a annoncé ses objectifs stratégiques en décembre 2021. La Russie a présenté deux accords avec les États-Unis et l'OTAN. Ils comprenaient des demandes pour un futur arrangement en Europe qui garantirait une sécurité indivisible pour tous. Le 21 janvier 2022, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov devait rencontrer le secrétaire d'État Anthony Blinken à Genève pour parler des positions de la Russie. Quelques minutes avant cette rencontre, le ministère russe des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse pour répondre aux questions des médias. Question : que signifiera pour la Bulgarie et la Roumanie l'exigence de la Russie que l'OTAN revienne au cadre de 1997 ? Devront-elles quitter l'OTAN, retirer les bases américaines de leur territoire ou autre chose ? Point d'interrogation.